Passeport pour Antananarivo, Tana la Belle. Il paraît que l'on ne quitte jamais Antananarivo, Tana, pour ceux qui sont loin, raconte l'écrivain Michel Rakotosson sur sa ville. Tana des bruits des quartiers, Tana et la fluidité de sa langue, Tana et les sons de la rue. Madagascar, île, monde, Tananarive, ville, monde, seconde escale, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Tananarive, ville-monde. La ville des mille soupirs.
Je me réveillais tenaillé par la faim. Les étoiles d'Antananarive luisaient dans la plaine endormie. Je cherchais à deviner les aspérités qui la caractérisaient en me repérant aux artères de lumière. Elles s'étendaient maintenant sur des kilomètres. Et si on confondait par temps clair ces lumières avec celles des astres à l'horizon, on discernait aussi des trous noirs, qui pouvaient tout aussi bien correspondre à des terrains boisés, marécageux, ou résidus de rizières échappant encore aux tentacules de la construction, qu'à des quartiers cachés par une butte, ou tout simplement subissant un délestage de la Jirama, la compagnie nationale d'électricité.
Tananarive, c'est... le nom l'indique, ça veut dire... la ville des mille âmes, de mille bonhommes ou de mille soldats, ou plutôt mille âmes. Mais ce nom est maintenant très, très, très dépassé. Parce que maintenant, Antananarive, c'est presque une métropole. Je crois qu'il y a à peu près maintenant 3 millions, quelque chose comme ça, d'âmes qui vivent à Tana.
Dama, chanteur.
Et cette explosion, en quelques, c'est-à-dire cinquantaine d'années par là, c'est à cause de ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, à Tananarive, c'est vraiment une ville qui reflète la jonction entre la ruralité et la modernité. J'ai l'impression qu'on assiste à une ruralisation de la ville. C'est ça que je constate maintenant.
On dit souvent ici que ce sont de nombreux îlots, d'ailleurs,
oui.
Les quartiers,
oui.
Sur les rizières.
Oui, c'est ça qui c'est ça l'image de Tana. L'image de Tana, c'est cette rizière en pleine ville. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Et je crois que ça, il faut vraiment garder ça parce que c'est un patrimoine.
Nourricier, d'ailleurs.
En plus, c'est patrimoine matériel et aussi nourricier. Parce que pourquoi les habitants de Madagascar sont devenus des riziculteurs, jusqu'à mettre les collines en terrasse. Et ce sont devenus des sculpteurs de collines. Alors, j'ai la voix cassée, donc je ne peux pas chanter, mais je peux quand même lire le texte de la ruralité. Il y a une chanson qui dit, là je peux quand même faire une mélodie pas très haute, « Et ranierite, rita unyawa, et ranierite, rita » Allez commander un élaftranier, tizane toi.
Rer s'approche de nous.
Je vais accorder un peu. Ça, c'est la chaleur. En fait, à cause de chaleur, ça dilate les cordes. Voilà, c'est ça la galère, en fait. Bon, il faut bien accorder. On prononce tout court Vali, phonétique V-A-L-I. Voilà, donc, l'instrument, c'est... sous forme tubulaire, en bambou. Donc tout autour, on trouve les cordes, évidemment. Au milieu, il y a une fente. On a fait exprès pour le son. Et on a deux sortes de chevilles, fixes et mobiles, en calebasse. Donc mobile, c'est pour accorder l'instrument. C'est-à-dire, si on veut avoir une sonorité grave, il suffit de glisser vers la tête. Et l'inverse pour la sonorité aiguë. Donc c'est... Ça c'est l'inverse. Mais pour avoir une sonorité grave. Et ainsi de suite.
Rajer, on dit Rajeri ou Rajer, on ne sait pas bien, les i se prononcent à peine, non?
Rajeri, on prononce tout court Rajeri.
Mais on me dit qu'on efface un petit peu le y, on me dit qu'il faut à peine le prononcer.
Oui, donc à Madagascar, les derniers syllabes, c'est presque muet, quoi. Rajeri, Vali, voilà. Donc voilà, déjà, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais à Madagascar, c'est 18 ethnies, 18 dialectes, 18 traditions, 18 cultures musicales. On a une énorme diversité musicale. Bon, moi, j'ai 18 cordes aussi. Et à chaque fois, quand je joue l'instrument, je pense aussi aux tribus, aux dialectes aussi, parce que moi, j'ai composé, par exemple, quelques morceaux en inspirant les dialectes et le rythme de la côte. Donc c'est très important. C'est les 18 ethnies qui donnent l'harmonie.
Dans les rues de Tananarive, on dit qu'on croise beaucoup de personnes qui ont sur leur semelle encore un petit peu de la glaise des champs, des rizières. C'est-à-dire qu'il y a toujours des paysans à Tananarive. C'est pas une ville qui s'est tout d'un coup transformée. Elle n'a pas transformé tout d'un coup ses habitants.
Oui, c'est normal parce que déjà, si vous avez remarqué, au rayon de 10 à 15 km, c'est déjà la campagne. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que quasiment tous les jours, donc il y a les paysans qui amènent un peu leurs produits pour vendre en ville. Donc ça c'est magnifique parce que c'est les paysans qui font vivre aussi et les gens qui habitent dans la capitale. Donc pour cela que on sent fort le mélange. Les mélanges des classes sociales, donc on trouve tout. Donc Tana est devenu un cosmopolite aussi, parce qu'on trouve tous les 18 ethnies, donc c'est magnifique. Et il y a une métissage déjà énorme, et moi je trouve c'est beau.
Rajer, si vous deviez nous décrire votre rue.
Mon quartier, c'est à côté de l'hôpital militaire, où il y a les casernes militaires aussi, Betungul. Notre maison est déjà située dans un quartier chaud, déjà. Donc moi, j'ai composé déjà une chanson parce que quand on se lève le matin, déjà, ces gens qui hurlent, qui se battent à côté, qui nous réveillent. Donc ça c'est notre exemple. Et en sortant de la maison, par exemple, un dimanche matin, c'est là où on trouve un peu le calme en ville. Parce que les gens, ils vont tous aller à l'église. Donc, par exemple, chez les catholiques, la messe commence à 6h30. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent déjà à 5h ou à 5h30 pour aller à l'église. Donc, on trouve le calme. À un moment, il y a le marché de Bessarède à ma gauche, si je continue à pied. En montant encore, il y a l'église, la grande église Antanimène, l'église catholique. Donc, on attend des gens, les chants d'église. Et c'est tous les dimanches, c'est quasiment pareil.
Thank you.
Tana, vue d'en haut, les rizières aplatissent le paysage. Vue d'en bas, l'entassement aléatoire des habitations de Guingois donne des airs cubistes à la ville basse. Le béton a coulé sec sur la terre molle. Serrées, les maisons en briques se présentent de côté, sous leur meilleur angle, le plus aigu, et leurs arêtes nettes marquent l'exiguïté de ces maisons sans cheminée, où l'on se chauffe au feu de bois. Des milliers de maisons rouges vifs, aux volets de couleurs tranchées, parsèment les collines de Tana. Leur nez busqué pique le ciel avec fierté. Debout, les pieds dans les rizières, la rumeur de la ville nous attrape d'en bas. On s'avance dans quel quartier, Pierre-Emmanuel ?
Là, on est à Bessarrette, qui veut dire beaucoup de charrettes, en fait, aussi simple que ça. Parce que c'est un vieux point d'entrée de la ville. Et donc, il y a toujours eu des embouteillages. C'est un quartier très, très populaire, mais très sympathique.
C'est
Tine qui depuis très très longtemps, donc Tine Ramarkout, qu'on appelle Rain Telou, c'est son nom de musicien. Et il a monté un groupe il y a une bonne dizaine d'années, où il a récupéré des petits jeunes du quartier, qui étaient des petits bandits, qui n'avaient absolument aucun espoir dans la vie. Et ils ont monté un groupe qui s'appelle les Tambourgaches. Donc c'est à base de percussion, comme le nom l'indique. Et ils sont tous devenus des professionnels, reconnus. Ils ont réussi à tous percer, mais bon, percer localement. Il y en a plusieurs qui arrivent à sortir un peu à l'export, dans les différentes formations malgaches qui tournent dans le monde. Il y en a peut-être 5 ou 6, on va dire.
Vous avez reçu une chaussée un peu craquelée, l'eau passe par là ?
Oui, oui, tout à fait. Ça va être encore un petit peu plus sportif, un peu plus loin.
Qu'est-ce qui se passe quand il y a des inondations ici ?
Les gens se noient. C'est aussi simple que ça. C'est très compliqué. Attention, il y a un trou là. Ouais. On a eu des gros problèmes cette saison des pluies. Il y a eu plusieurs morts d'ailleurs. Hein, parce qu'en fait, les gens avaient de l'eau jusqu'à la ceinture. Et tout ça à cause des constructions illégales. Hein. Donc c'est un peu compliqué, il faut payer 20 centimes d'euros pour se faire porter par des gens qui vous aident à traverser la rue. Parce que les enfants ne peuvent pas traverser par exemple. Donc là c'était vraiment pas terrible.
On arrive à votre atelier. On m'a dit que beaucoup de guitaristes dans la rue avaient du mal à trouver leurs cordes.
Oui, tout à fait. Ça c'est la tradition, on veut que chaque fois qu'on va en Europe... On ramène tout ce qu'on peut. Parce qu'ici, là, les gens n'ont pas les moyens de se payer quoi que ce soit. Surtout les cordes. Hop. Donc le chemin est un peu tortueux, mais tout se mérite.
Le chemin est un peu tortueux, c'est-à-dire qu'en fait, on passe dans un couloir pas plus large que nos épaules.
Tout à fait.
Mais comment vous faites passer des instruments de musique par là ? Pas de piano à queue, hein ?
Non, non, ça sert. C'est pas possible. C'est pas possible. On est arrivé.
Voilà. Nous sommes entourés de tambours.
Oui, djembé.
Djembé. Ça se passe ici.
Ouais, ça se passe ici, les répétitions, l'atelier, tout ça.
Ouais.
Oui, lui c'est Radad, fit. Et tout. Donc, exemple, à carnaval.
C'est le rythme, le contact de l'homme avec la terre, comment est-ce qu'on se met en contact. Et c'est à la fois une relation douce et aussi dynamique.
Ok, andramasitra le salegery io e ary miaraka daholo le amin'ny salegy miaraka amin'ny jojoby iny dans la danse en couple malgache. C'est toujours garder la distance, ça veut dire respecter l'intimité de chacun.
Hariri, compagnie.
Donc, à l'époque traditionnelle, il n'y avait pas de blues, il n'y avait pas de kizumba, qui est très sexy. Les malgaches sont très pudiques. Ça veut dire, un peu hypocrite. Ça veut dire dans le sens, c'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens que il y a des choses qu'on montre, il y a des choses qu'on garde quelque part.
De distance.
De distance, de distance.
Et de secret un peu.
De secret, voilà. Donc c'est quelque chose, ce sens de pudeur dans les coutumes ou dans la vie de tous les jours reflète à partir de façon de s'habiller, de façon de se parler, de façon de se placer dans une salle et tout ça. Je pense que c'est très intéressant de voir quoi.
Là, on ne se regarde pas.
On ne se regarde pas parce que l'écoute, c'est pas seulement le regard, mais c'est l'envie de sentir l'autre, d'être avec l'autre et de ne pas trop côtoyer, ne pas agresser. Dans une petite pièce chorégraphique qu'on a déjà montée avec un rythme salègue qui vient du nord de Madagascar, chanté par le fameux chanteur, le roi du salègue Zouzoub. Donc là, c'est le pas d'ensemble individuel et après on va voir comment on va se présenter, comment ils vont danser en couple.
Qu'est-ce que c'est le rythme?
Le rythme, c'est le salègue, le 6-8, le... Voilà, il y a des rythmes de base. 1, 2, 3, 4, ça revient en rythme de base et puis reprenez et stop. Ah ouais, pourquoi stop?
Les couples qu'on va faire, hein? Aïe, c'est
là, les bras comme ça, grands étendus, on a l'impression qu'ils volent.
Oui, il y a, en fait, dans cette danse, on pense toujours de voler. C'est dans la technique de Papango, la technique qui vient de l'inspiration de l'oiseau qui se trouve à Madagascar.
Qui est le Papango?
Papango, c'est un, comment on appelle ça? C'est un genre ou type, comment on appelle ça? Je sais pas. Un type d'oiseau sur les hauts plateaux. Et qui chasse les poussins. Et donc, quand il chasse les poussins, il ne bouge pas trop les ailes, mais il garde les ailes écartées pour descendre et pour monter en haut. Et des fois, il y a deux qui dansent en même temps. Donc, on a imité ces formes-là.
Ok. Vito, c'est fini.
Ce rythme de pas, on peut entendre. D'où l'avez-vous amené? Des hautes terres?
Oui, bien sûr.
Volcanique.
Volcanique. Je suis arrivé ici à Tana avec ses racines de pas, de rythme et de culture, de taper le sol. Et puis j'ai rencontré la danse moderne et la danse classique et tout ça. Donc c'est peut-être ça l'origine de ces pas qu'on a entendus tout à l'heure.
Et ce rythme-là, vous le reconnaissez parfois chez d'autres?
Bien sûr. Par exemple, si on entend la danse de l'Est, c'est le même pas, mais beaucoup plus sobre, beaucoup plus, comment on dit ça, tsatsaïk, plus spongieux. Mais dans le kidou, c'est doux, 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 doux.
Et alors, si on devait comme ça imaginer de façon sonore les différents pas qu'on peut entendre à Tana, qu'est-ce que ça donnerait?
Avec les touk touk touk, tic 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 tic, doux, 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 trrrr, tac 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 tac, doux, 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 doux. Ça fait le kachik. Kachik, ça veut dire les bambous qu'on tape. C'est très, très, très terre. Rythme très terre. Donc, malgré tout ça, il y a des gens qui sont adaptés dans la ville et tout ça, avec les chaussures, avec les voitures et les étages dans la maison. Mais on est encore plus près de ce rythme qui est très terre.
C'est plutôt le matin qu'on peut entendre ça dans les maisons, le soir, la nuit?
Je pense que c'est le matin. Surtout au moment que les vendeurs, les marchands de bread et des fruits et tout ça arrivent avec leurs pousse-pousse et leurs charrettes et qui croisent avec les bus qui commencent le matin et avec les taxis et les voitures, les motos. Et ça donne le mélange.
Dans l'histoire, il y a encore un siècle et demi, pour aller à Tananarive, il y avait deux chemins, soit les chemins des collines, par Ambutabib, soit par des pirogues, parce que tout ça était des rizières, était de l'eau. Donc on passait par des pirogues quand il n'y avait pas encore les routes, et il y a un certain nombre d'endroits dont les noms indique que c'était des ports de pirogues. Et les paysans d'ici ravitaillaient Tananarive en pirogue.
Michel Rakotosson.
En fait, c'est vrai que Tananarive est un espèce de conglomérat de villages. Il y a une ville au centre-ville et puis il y a plein de villages. Et les paysans, on les voit partout, dans les petites boutiques, dans la manière de marcher à pied, dans la manière de récupérer tout, quand on regarde tout ce qu'ils vendent. Ils vendent des tas de légumes carrément à même le sol pour survivre. Et souvent, ils sont debout à 1h du matin pour emmener leurs produits au marché. Et ils y vont à pied. Ce sont vraiment des marcheurs. Et à 1h du matin, ils descendent des collines tout là-haut. Parce qu'en fait, les champs d'oignons, les champs de primeurs, etc. sont derrière ces collines-là. Et ils descendent les collines et ils vont jusqu'à l'arrêt du bus d'Ambouimang. Après, ou soit ils vont directement jusqu'au marché de Chapoussamiel.
Autour d'Itoche, Mboutumanzaka, c'est dans le banlieue, autour à 10 km d'ici à peu près. Et ils viennent sur place pour acheter... déjà sur les champs. Et après, c'est elle-même qui va vendre petit à petit comme elle veut. Donc, s'ils n'ont pas assez, s'ils ne trouvent pas, s'ils n'ont pas assez dans les champs, ils viennent dans les stations là où il y a les paysans tous les matins. Les fruits aussi, ça se fait comme ça. Les gens, ils viennent à la campagne, ils achètent quand le fruit est encore sur l'arbre. C'est eux-mêmes qui font la récolte, qui coupent. Après, ils payent le paysan. Donc ça arrive beaucoup moins cher.
Quatre heures
ou 5 heures du matin, tous les matins. Pour arriver ici à 6 heures. Soit en voiture, comme les petits 3 chevaux, ou bien en diligence. Il y a une certaine locomotion tous les matins, comme les diligences en Amérique, avec les chevaux, ou en charrette aussi. Donc elle est en train d'enlever les fibres sur l'arc vert et couper les carottes pour faire du soupe. Après, elle revend par kilo.
Exode rural, on a l'impression que les gens viennent de très loin. Mais en réalité, la campagne, elle affleure la ville.
Et c'est pour ça que l'exode, c'est tellement facile. C'est pas loin.
Comment est-ce qu'on fait ses valises quand on vient de la campagne? Qu'est-ce qu'on amène avec soi?
Bien sûr, il y a les habits, les chaussures, les petits sacs. Mais le plus important qu'ils amènent ici, c'est dans leur tête. C'est ce qu'on appelle la culture. Ils viennent avec ça en ville. Et surtout, eux, ils sont, parce qu'à la campagne, ils ont des petites gargotes avec le café, là, avec le galette de riz. Ça, c'est typique aussi. Et ça, on trouve un peu partout dans la ville. Et en plus, le riz n'est pas seulement un produit alimentaire. Le riz aussi, c'est une culture. Et oui, alors, vous savez, un jour, on a demandé dans une classe, et les enfants, comment on peut avoir un bon, très bon eau d'argent? L'eau d'argent, c'est l'eau, après avoir cuit le riz, on a grillé un peu le fond, et quand c'est vraiment chauffé, on verse de l'eau et ça donne une couleur argentée. C'est un peu brun, etc. Un peu la couleur de du thé, et entre le thé et le café. Et c'est ce qu'on appelle le ranvula, ou bien l'eau d'argent. Et cette eau est spéciale, ça sent un peu le riz, comment dirais-je, un peu grillé. Et on a demandé ça aux enfants. Comment faire pour arriver à avoir un bon eau d'argent? Alors les enfants ont dit, non, il faut bien griller le riz, et puis après, on enlève. Et si on ne sait pas assez griller, on continue à griller, puis on verse de l'eau, et puis on ne laisse pas bouillir. On laisse seulement frémir l'eau, et puis on boit. Effectivement, c'est ça la manière. Et là, si on veut boire vraiment de l'eau d'argent de qualité, on le fait comme ça. Mais il y a un autre qui lève la main derrière au fond, là, dans la classe, il dit, non, madame, c'est pas comme ça. Il faut d'abord se lever le matin, à 3h du matin ou 4h, prendre la bêche, aller dans les champs, préparer le riz. Et il raconte tous les processus de travail, jusqu'à la récolte, jusqu'au pilage de riz, jusqu'à chercher les bois pour chauffer, mettre de l'eau. Tout ça, il faut faire tout ça pour avoir un bon eau d'argent. Avec peu, on peut vivre avec peu la débrouillardise. Et pourquoi? Parce que ici, par exemple, on peut, au lieu d'acheter ici le plat de riz dans les quartiers, partout dans les bas quartiers, dans les lieux de regroupement comme les stations de taxi Brousse, là où il y a beaucoup d'attroupements, le riz avec l'accompagnement, la viande ou poisson ou légumes ou haricots, c'est très bas prix. C'est très bas prix. Donc c'est à la portée de ces gens-là. Et puis on peut acheter de ci par là, on peut survivre en ville. On peut survivre en ville.
Pour beaucoup de gens, comme on dit, ils cherchent de quoi manger pour la journée. Donc souvent les hommes partent le matin très tôt.
Sylvain Urfer, jésuite.
Et reviennent le soir. Ils s'alimentent en cours de route en achetant pour rien du tout un peu de riz ou un peu de varimsang, comme on dit ici, du riz qu'on prend en restant debout et en passant. Là où ils gagnent 100 ariars, ils en dépensent 50, puis ils en regagnent 50, ils en dépensent 100. À la fin de la journée, ils ramènent ce qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas ce qui leur est passé dans la main. En ville, ils n'ont pas de stock de riz, ils n'ont pas cultivé, donc ils n'ont pas de riz à partager à ceux qui n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Leur donner de l'argent, mais de l'argent, ils n'en ont pas. Et donc cette solidarité, elle est de plus en plus difficile à vivre en raison de la monétarisation de la société. Alors reste quand même, j'allais dire, les dons, on se donne des habits, on se donne un peu de riz, un surplus de ceci, un surplus. On s'organise dans la pénurie et on arrive peu à peu, enfin, difficilement, mais on arrive à survivre. Et c'est cette solidarité-là qui entretient les bonnes relations et qu'il ne faut pas rompre.
Et le Fiavanan, comment peut-on maintenir des liens anciens alors que les valeurs anciennes, le respect des anciens justement, l'esprit de modération, l'inclination pour le dialogue disparaissent?
Où est passé cet esprit de modération?
Le fameux Fiavanan.
Oui.
Alors, on dirait que c'est presque une légende. Hein. Le fievan, c'est les liens qui entrent les gens.
C'est pas des liens légers dont vous parlez là, c'est des liens solides.
Oui, c'est de se dire qu'on est pareil à l'autre. Et donc, ça, c'est pas mal. Mais en même temps, ces liens-là peuvent servir aussi à asservir. À servir les gens, à garder les liens qui existent. En fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution sociale, si vous voulez. Si on maintient les liens, donc c'est pareil qu'au temps de mon grand-père, au temps de mes arrière-grands-pères, et rien ne change. Ça permet aussi de garder les choses telles quelles, que rien ne bouge, en fait. Donc c'est à double tranchant.
Quelquefois, on a envie de se rebeller contre cet esprit de modération aussi.
Oui, 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 mais c'est clair. Hein. Parce que le fievan, c'est vraiment... c'est ce qu'on dit, c'est l'idéal malgache. Alors si ce lien-là est un lien de dépendance, hein, d'un supérieur à un inférieur, ça permet à l'inférieur de demander de l'aide, s'il en a besoin. Mais vous comprenez, c'est très paternaliste comme relation. Mais ça permet aussi au supérieur de maintenir ce lien de subordination qu'il peut avoir avec la personne subordonnée. Ce serait bien que ça change.
La moyenne d'âge est jeune, comme le reste du pays. La moyenne d'âge, c'est 20 ans. Un habitant sur deux a moins de 20 ans, un habitant sur deux plus de 20 ans. L'espérance de vie est de 60 ans, en gros. Et donc, cette population jeune, qui n'a au droit, j'allais dire, à aucune infrastructure, que ce soit les routes, que ce soit... les maisons, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, tout est dans un état délabré et en nombre et en qualité insuffisante. Donc ces gens se débrouillent. Il y a une petite classe ultra privilégiée dont la richesse immense s'oppose de plus en plus à la misère ambiante, l'écart se creuse, les riches malgaches sont plus riches que les riches européens, ne nous faisons pas d'illusions qu'à voir le nombre de 4x4 de luxe qui sillonnent la route, les rues de la capitale. Et donc cet écart se creuse, et sur Tananarive, il prend significativement une structure géographique. La haute ville, comme on dit, est la ville des riches, avec des quartiers résidentiels dans la périphérie. Mais les grands quartiers populaires, c'est ceux qui sont pris sur l'ancienne plaine rizicole de la baie de Simitatatra, où les gens viennent parce qu'il n'y a pas de cadastre. Le seul cadastre qui a été fait date de 1935. Et depuis ce temps-là, on n'a rien touché, les générations se sont succédées, etc. Donc on s'installe là, parce qu'en plus, c'est des terrains qui sont inondés chaque année pendant la saison des pluies, et donc qui n'attirent pas les investisseurs de la classe moyenne ou surtout aisée. C'est là-dedans que s'entasse cette population qui vit essentiellement de l'informel. C'est aussi la population la plus jeune et la plus dynamique, en ce sens qu'il faut que cette jeunesse vive et survive, mais c'est aussi la jeunesse la plus sensible finalement au mouvement de révolte lorsque, à la malgache si je puis dire, le verre est rempli et qu'il y a une goutte d'eau qui fait déborder tout. Ce sont souvent des épisodes inattendus qui cristallisent un mécontentement latent et qui créent un mélange explosif. Et donc c'est ce monde-là, ce monde de ces jeunes, ce monde de ces gens qui vivent de l'informel qui réagissent le plus. Après quoi, d'ailleurs, tout retombe parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre.
Là, ça va exploser, là, non?
Ouais, dans une minute à l'autre, ouais. En fait, les gens brûlent les patrimoines du président. Ouais, il ne fait que remplir sa poche.
Antananarive, la ville des mille échoppes ferme ses portes et charrie mille poubelles. Les mille ruelles et les mille escaliers reliant les différents quartiers de la ville basse et la haute ville se laisse cloisonner par mille barrages où guettent mille détrousseurs. Dans la ville des mille soupirs, ne s'entendent plus que mille rumeurs haineuses et revanchardes. Et depuis la rentrée en lice de l'armée, la ville des mille bruits ne s'étonne plus de mille détonations.
J'étais très triste à l'époque. Enfin, triste, peut-être pas triste, mais un peu beaucoup déçu, parce qu'en fait, il y a eu un essor de Madagascar dans, juste un peu avant. Et on croyait quelque chose qui allait en sortir. Et puis finalement, non, il y a de nouveau des émeutes. Et on brûle la télévision et les journaux, on a brûlé des archives. Et ça me rappelle en plus l'effet de brousse qu'on voit ici, en ces enchèches, là.
Sur c'est les pas collines.
Oui, sur les collines, là, tout au fond, vers fin septembre, octobre, eh bien, on voit... On peut croire que c'est des feux de joie, mais non, c'est vraiment des feux de la désolation. On brûle la savane. Alors, il y a des raisons à cela. En fait, l'herbe, la vieille herbe sèche et dure, les ébus n'aiment pas. Mais si on brûle, les jeunes pousses qui sortent à ce moment-là, c'est très apprécié des ébus. Mais des fois, on le brûle aussi par mécontentement. Et depuis 2009, c'était récurrent. Et à ce moment-là, il y avait une grande tension. On avait vraiment eu peur d'une vraie guerre civile. Il y avait deux présidents, un qui était là, qui était légal, hein, le président légal, et puis un qui se disait légitime. Et l'armée qui basculait, on ne savait pas trop où est-ce qu'ils allaient aller. Et c'était ça la vraie cause de la tension, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer le lendemain.
Mardi 17 mars, le jour était près de se lever. J'entendais mes enfants dans la pièce d'à côté marmonner dans leur demi-sommeil. J'allais veiller et les préparer pour l'école. Je pensais qu'ils en reviendraient peut-être. L'école fermée ces derniers jours de façon impromptue. On ne peut pas prévoir. Je les ai envoyés quand même. C'était un jour avec école.
Voilà. Et donc, c'est pas la vie, c'est pas la survie, c'est une vie à côté.
Une vie à côté, mais qui est toute la vie ici, puisque oui. La majeure partie des gens vivent de cette façon.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est ça que je trouve magnifique, et c'est ça qui enrichit, en fait. Et puis donne espoir, en se disant, ah, si on a réussi à sortir de tout cela, c'est qu'il y a un fond, peut-être, qui nous permet de continuer, justement, et du coup, peut-être pas changer les choses, mais de vivre avec.
Qu'est-ce qu'elles donnent comme conseil, les mamans, ici, à leurs enfants, pour justement arriver à ne pas se laisser ensevelir sous les difficultés, mais persévérer?
Alors ici, on accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Et je crois que c'est ce qui revient le plus souvent, c'est « Mena Ratsar, travaille bien à l'école ». Peut-être 70% des gens, en Tananarive du moins, les enfants en Tananarive vont plutôt dans une école privée. On a une petite maison, il y a de la place. Pour accueillir une classe, on crée une classe. Parce que justement, ça manque énormément. Et les gens, ils sont persuadés qu'il n'y a que ça qui pourrait faire sortir leurs enfants du cycle de misère. Si un enfant qui n'est pas très très courageux à l'école, eh bien, il va trouver du travail. Il va trouver du travail. Le travail, il y en a. Peut-être pas un travail formel comme on peut imaginer dans une société bien organisée, mais l'enfant travaille vraiment. Par exemple, où on voit souvent des enfants, c'est pour aller chercher de l'eau. Si vous vous promenez dans la rue, là, il y a des pompes installées à chaque coin de rue. Et ces pompes ne sont ouvertes qu'à une certaine heure de la journée, pas en continu, tôt le matin et en fin d'après-midi. Et là, c'est souvent des enfants. Des enfants cherchent de l'eau pour leur maison, mais s'ils veulent se faire un peu d'argent, ben, ils peuvent chercher de l'eau pour les voisins qui ne peuvent pas. Et des fois, et ça m'est arrivé hier déjà, on était dans une petite gargote et puis il y a peut-être quelqu'un, un adulte qui ne sait pas vraiment compter, qui tenait la baraque, quoi. Et au moment où on a demandé l'addition, il y a une petite jeune fille en tablier, juste avant d'aller à l'école, qui était là à faire les comptes pour les notes de la gargote.
Alors, dans vos textes, il pleut souvent.
Ah, j'ai dû écrire ça pendant l'été.
Oui, oui, mais quand il fait froid aussi, je dis qu'il fait froid. Bon. J'ai peut-être pas beaucoup d'imagination, il faut que je me coltine la réalité quotidienne.
Elle est très présente, déjà.
La réalité ?
Oui.
Oh oui, très 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 présente, et des fois même ça m'empêche d'écrire. Parce que je trouve que des fois, bon, je suis censé faire des fictions, hein, et des fois je trouve que la réalité dépasse les fictions largement. Et on dirait que je manque un peu d'imagination en copiant juste ce qu'il y a. Et en fait, moi, ce que j'aime bien raconter, c'est le quotidien des gens, la vie. À mes personnages, il n'arrive rien d'extraordinaire. C'est la vie toute simple. Et donc, du coup, pour rendre ça bien visible, ben, il faut... Enfin, c'est ma manière de faire. Peut-être que c'est pas bien, je sais pas. Mais oui, c'est bien concret, oui. C'est du concret.
C'était en novembre. Une nuit moite, puis la brusque fraîcheur d'après l'orage. J'attendais la clientèle sous un lampadaire d'un passapite quand je perçus des flocs-flocs sur le bitume.
C'est un chauffeur de taxi, je crois. Mais qui n'avait pas de clients, vu que c'est la crise. Alors les gens, ils marchent à pied. Et donc, les chauffeurs de taxi, souvent ici, c'est pas des propriétaires de leur voiture. Et donc, ils louent quotidiennement leur taxi. Et bon, j'ai fait des petites enquêtes, hein. Moi j'aime bien connaître la réalité et tout ça, donc je demande. Et à peu près, le prix de la location de taxi, c'est à peu près 3-4 courses. Donc un chauffeur de taxi commence à manger au bout de son cinquième course. S'il part le ventre vide de chez lui, il faut qu'il trouve 4 personnes et au cinquième, l'argent c'est pour lui. Et il commence généralement par s'arrêter devant une gargote pour prendre un café, manger un petit coup... avant de continuer. Et des fois, bon, l'histoire que je raconte là, ce chauffeur de taxi, il n'avait pas eu de course encore. Parce que c'est la crise, personne ne sort, et en plus il pleut peut-être, en fait.
Nous sommes en 2009.
Ah oui, on était en pleine crise, alors à ce moment-là. Et non seulement les gens n'avaient pas d'argent, mais les gens avaient peur de sortir. Et du coup, comme c'était un taxi de nuit, eh bien, lui... Il va non seulement pas dormir parce qu'il travaille, mais il va jeûner la nuit.
Je levai la tête de mon calepin et vis une silhouette chancelante pénétrer dans le halo de lumière. Couverte de boue, les pieds et les chaussures compensées formant des bottes épaisses et gluantes, les flocs-flocs, elle s'empressait maladroitement vers moi. Cette femme qui devait avoir l'aspect élégant de quelqu'un de la haute avant de tomber dans un égout. Des taches vaseuses maculaient ses jambes, ses mains, son imperméable, son visage et ses cheveux. J'enclenchai précipitamment les fermetures de mon taxi. Ce n'était tout simplement pas possible.
« Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Emmenez-moi un jar !»«
N'importe où vous voulez, madame. Dès que vous vous êtes débarrassée de tout ça, je dis. »«
Je vous donne 100 000 !»«
Il y a une pompe au coin de la rue. »«
Alwal Kandanbarye !» De l'eau jusqu'aux genoux dans les rizières.
Je ne répondis rien, me contentant de désigner le coin de la rue. De l'eau jusqu'aux genoux dans les rizières. Asphyxie les jeunes plants et anéantit toute idée de récolte. Mais en cette saison, les plants de riz étaient assez grands pour supporter l'auteur d'eau annoncée. Floc floc alarmé vers la pompe. Pas mal sexy, en fait. Surveillant les opérations dans mon rétroviseur, je trouvais quand même étrange cette expression vieillotte d'alerte dans la bouche de cette femme, très citadine, même avec ses taches de boue sur les mollets. Alwal Kanranbari, de l'eau jusqu'aux genoux dans les rizières.
Vous aimez le mauvais temps, il fait toujours mauvais temps. Hein. Le mauvais temps ne l'était pas assez pour dissuader les gens de sortir. Vous avez des souvenirs comme ça d'enfance, de rideaux de pluie dans les escaliers sur Tananarive? Parce que la pluie, la grisaille est très présente.
Je crois que c'est le temps, tout ça. C'est, alors, il y a le quotidien des gens, c'est ma matière. Et le temps, tout ça, c'est un peu ma manière de disposer les choses dans l'écriture, peut-être. Et c'est aussi fonction de mon humeur de l'instant. Et mon humeur dans ces époques-là, 2009, c'était pas très joyeux peut-être, et oui, peut-être métaphoriquement, Il pleut, il fait gris.
Il pleuvait beaucoup en 2009.
Non, mais à Tananarive, lors de la saison des pluies, c'est un moment déterminé, bien déterminé de la journée qui pleuve. Donc généralement, c'est fin d'après-midi et au milieu de la soirée. Et quand ça tombe, là, à ce moment-là, à ces heures bien déterminées, eh bien, c'est des rideaux d'eau. Hein. Alors on le sent arriver la pluie. Il y a un petit vent frais qui arrive. Et puis après, les premières gouttes arrivent, de plus en plus grosses. Et puis après, c'est le torrent. Et donc, entre ce moment du petit vent et l'arrivée de l'orage vraiment, il faut aller s'abriter et attendre. Et souvent, on attend dans une boutique, et là, on fait causette dans une heure ou deux, jusqu'à ce que ça cesse.
Au tournant, là, au haut de la rue, on va arriver sur la gargote qui fait, je crois, qu'il fait des très bonnes soupes chinoises.
Des restaurants chic qui côtoient des petites gargotes.
Là, vous avez un hôtel couscous Karan. Karan, c'est la communauté indo-pakistanaise là, qui habite à Madagascar. Et juste en face, bah, on a la gargote, elle est juste ici, là, à droite. C'est là qu'est la soupe. Voilà. Salamatoko. Voilà, bon, une gargote. On a juste cette petite ampoule qui éclaire le commerce de madame. Et là, on y voit du poulet prêt à être grillé. On y voit des brochettes de zébu prêt à être grillées également. C'est vrai que dans la nourriture des hauts plateaux, on va dire, elle est très inspirée par la nourriture asiatique. Quoi. On voit les sambos, effectivement, des nems, des boulettes de viande, la soupe que je m'apprête à manger, là, qui vraiment, c'est une soupe chinoise que tu peux manger la même chose à Bangkok ou à Hong Kong. Et là, j'ai en face de moi deux dames qui ont l'air plutôt sympas, dont une est en train de manger, qui est en train d'engueuler des gosses qui sont à ma droite, qui sont en train de me demander de l'argent. C'est la nuit à Madagascar, quoi. C'est la nuit à Tana.
Un peu de sous pour se payer cette soupe ou pas?
Il faut avoir un peu de sous, ça coûte 500 ariars. 1000 ariars, pardon. 1000 ariars. Il faut faire le calcul. Hein. C'est un peu moins de 5 centimes d'euros. Bon, je vois que là, les petits jeunes là ont décidé de passer la soirée avec moi, donc je pense que je vais leur offrir une soupe. Et les affaires de madame, tu sais, bah, mais la soupe est...
La soupe foule.
Ah, la soupe foule. La soupe foule, une zane.
La soupe laquelle.
Non, mais voilà, le petit gars, il me demande la soupe pour 6 personnes. Mais je dis, non, je vais lui donner... Et par contre, hein, Azamiyad Nareo, hein. Azamiyad Nareo, ça c'est sur des... Voilà, mais ça c'est le truc qui arrive tout le temps, c'est que... un bol pourrait plus suffire, mais voilà, donc comme le fait la dame là, elle va prendre chacun un bol pour chacun et elle devra partager une soupe qui coûte 1000 ariars parce que
c'est enfui avec comme un oiseau avec beaucoup de pâte dans la bouche.
Ouais, comme un oiseau, exactement, comme un oiseau. Ibulamisi à tous. Ah, ça merde. Ah, allô, ça arrive. Miel. Ils ont vraiment faim. Hein. Et du coup, non, au calme. Ah non, vite. Ouais, bon, mais voilà, mais c'est un peu. Non, les jeunes là qui sont, voilà, sont des jeunes qui. Dont on ne sait pas où sont les parents. Même si je leur demandais, si je leur avais demandé, ils m'auraient dit, je sais pas où sont mes parents. Quoi. Ils ont vraiment faim, non? Ils ont peut-être rien mangé depuis ce matin.
Elle est belle cette photo.
Ouais. J'aimais bien. J'avais envie de cadrer justement avec le, avec la dame là, d'un certain âge qui est en train de nettoyer la table. Et puis, puis sur le côté gauche de la photo, ben, on voit plutôt les assiettes, les œufs, un peu de pâte. J'aime bien ce genre de composition en fait. En fait, en plus, avec le 35 mm, je suis obligé d'être vraiment très proche des gens, quoi. Je peux pas faire des photos d'ensemble. S'il n'y a pas de composition dans la photo, s'il y a rien qui se passe, c'est pas intéressant. Donc je suis très tac. J'aime bien entrer frontalement chez les, sur les gens, quoi.
Vous, vous êtes revenu au pays, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Je suis revenu en 2011. Je me suis dit que, voilà, bon... Je suis malgache, né en France, je suis un malgache de la diaspora. Mais quand même, j'ai senti que j'avais vraiment le besoin de revenir au pays. Quoi. Qu'il y avait vraiment y avait quelque chose que j'avais un peu usé, on va dire, en France. Et j'ai jamais regretté d'être revenu. Quoi.
Et la langue, vous la parlez comment? Vous avez un petit accent? Jasselou?
Allô, allô, ok, oui, c'est. Fatena, et là, on arrive à la soupe. On arrive à la soupe. Ah, face à un miat fous, mais. Oh là là. Bon, enfin voilà, ils ont compris ce que j'ai dit, mais bon, ils voient très bien que c'est pas. C'est comme si. C'est comme un anglais qui parle en français, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Je roule pas très bien les airs. J'ai une diction qui est un peu hachée. J'insiste un peu trop sur la fin des phrases alors que les dernières syllabes dans la langue malgache sont avalées et moi j'insiste un peu trop, des choses comme ça quoi. C'est... Et puis la langue malgache est très chantée, c'est une musique quoi, et la musique je la joue mal apparemment, donc on me calcule tout de suite comme étant pas d'ici quoi. Alors ça c'est marrant parce qu'il est en train de chanter une chanson là. Chante une chanson.
Ananas,
c'est marrant, c'est parce que les gamins comme ça quand bon là il est quand même 21h, le petit gars il dort pas quoi, mais dans la journée les gamins comme ça ils sont dans la rue et ils chantent des chansons dans la rue ou entre les voitures dans les embouteillages pour avoir un peu d'argent.
Et derrière nous finalement des soupes ont été servies, donc les enfants sont des Russes ont payé leurs soupes en fait. C'est ça, ils avaient des petits billets sur eux.
Ah bon, tiens, bah ouais, tiens, j'ai même pas vu ça. Ah ouais, ça mérite une photo, ça, alors. Nase la soupe, là. Azamzerana. Je viens de leur dire de pas me regarder parce que ça fait un peu trop photo de famille. Bon, la dernière photo, elle était un peu, ça faisait un peu club de foot. Bon, je propose qu'on redescende par là, en fait.
Ouverture, à 25e, le flou et la flaque de lumière sous l'ampoule. C'est tout lui, déjà solo, le photographe de l'ombre. Des nuits moites, craquées, des vendredis magnifiques. Son appareil sous la glotte, il avale d'une traite les étoiles tombées sur le sol, la rétine triste des filles. À 67 hectares, crépitent les promesses des drogues dures.
Ben voilà, là, on a quitté vraiment, on va dire, le centre-ville de Tana. On se retrouve à 5 minutes en taxi du centre-ville et on a traversé plusieurs quartiers, vraiment des bas quartiers de Tana. On a longé un canal qui sert de vide égout de tout le centre-ville de Tana, en fait. Et bon, bah, la nuit on les voit pas très bien, mais on distinguait pas trop. Mais il y a beaucoup de bidonvilles en fait qui se sont créés autour de ce canal.
Et les seules lumières qu'on voit, c'est des feux de déchets.
C'est des feux de déchets. C'est-à-dire les gens n'ont pas de benne à ordures à proximité, donc ils détruisent leurs ordures comme ils peuvent quoi.
Et la nuit aussi.
Et souvent c'est pour se réchauffer hein, finalement, parce que là. On a beau être en Afrique australe, on va dire, mais il fait quand même 15 degrés. C'est froid pour un malgache.
Depuis 2009, les visages ont changé ici. L'argent n'a plus du tout afflué à Tananarive, hein, à partir de 2009, l'argent étranger.
Ouais, c'est vrai que les bailleurs de fonds n'ont plus investi depuis 2009, quoi. Et même depuis l'élection présidentielle de 2013, il n'y a pas eu vraiment de gros investissements. Là où ça a changé, c'est que. Il y a eu beaucoup de prostitution de mineurs, beaucoup de même de mères célibataires qui se sont mis à vendre leur corps quoi pour recevoir quelques billets. Quoi. enfin en 2009, il faut savoir que toutes les zones franches, c'est-à-dire les zones de confection textile qui appartenaient aux Mauriciens, ont été fermées. Et il y a eu presque plusieurs centaines de milliers de filles, de couturières en usine, donc, qui se sont retrouvées à la rue et qui n'avaient pas d'autre choix que de se prostituer quoi, pour vivre, en fait. Et ça, c'est vraiment, depuis 2009, le principal changement qu'il y a eu. C'est que socialement, on a ressenti une vraie misère chez les gens, quoi. Chez les petites gens, on va dire. Quand je dis petites gens, ça n'a absolument rien de péjoratif, quoi. C'est... Quand je dis petites gens, ce sont les gens qui n'ont rien, quoi. Qui n'ont rien, quoi. Qui n'ont rien pour eux et dont d'ailleurs tout le monde se fout.
Vous nous amenez où ?
Alors là, on va dans un bar. J'ai jamais su comment il s'appelait ce bar, mais c'est un bar que j'ai fréquenté pendant 2-3 ans. Et j'ai énormément fait de photos ici. J'ai rencontré énormément de gens. Mais ici, ça tourne beaucoup. Les filles aussi, ça tourne beaucoup. Je veux dire, les filles qui, les travailleuses du sexe qui travaillent ici, elles ne restent pas longtemps, quoi. La musique est très forte, la sono est très pourrie.
La lumière,
elle est cafardeuse, mais c'est ça que j'adore, quoi. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment Tana, quoi. C'est vraiment Tana la nuit, Mada la nuit. Un petit point de lumière comme ça au milieu de la rue. Il y a des lampadaires tous les 50 mètres, là, mais il n'y en a aucun qui marche, quoi. Ce sont les lumières des bars comme celui-ci ou les lumières des hôtels chinois comme là en face qui éclairent la rue, quoi.
On voit les filles fumer à la fenêtre là-haut.
Ouais.
La lumière est bleutée.
Voilà, c'est vraiment le néon, quoi. Voilà, c'est ce qui consomme le moins.
Et les murs sont bleus.
Un petit bleu électrique là pour attirer le client. Mais à l'époque, quand je traînais ici, c'était blanc, blanc, blanc avec des traces bizarres sur les murs. On est obligé de jouer avec ce qu'on a, c'est-à-dire les pauvres petits néons, des bars, des gargotes au bord de la route. On peut trouver une esthétique avec ces ambiances-là, quoi. Les contrastes sont forts, les visages se détachent facilement du décor. On n'a pas le choix, en fait, ici à Madagascar. On n'a pas le choix. Les gens n'ont pas le choix en général, et les photographes comme moi n'ont pas le choix. La nuit, on fait avec ce qu'il y a, quoi. Enfin, en fait, tout le pays est à l'image de ce que je viens de dire, c'est qu'on ne maîtrise rien ici dans ce pays, en fait. Bon, allez, je vais rentrer dans le bar.
Tananarive, ville monde, la ville des mille soupirs. Un documentaire de Nejma Bouakra et Je libère ici. Avec Rajeri, musicien, les tambours malgaches, Hariri Company, Michel Rakotoson, auteur, Dama, chanteur, Sylvain Urfer, jésuite, Johari Ravalosson, écrivain, et Rija Solo, photographe. Texte de Johari Ravalosson. Avec les voix de Martin Amic et du slameur Bini. Prise de son Jean-Marie Porcher, mixage Olivier Dupré. Une émission coordonnée par Catherine Libert. Merci à l'Office national du tourisme de Madagascar, à l'Institut français de Tananarive et à Mandrézy.
Chant du départ, verset de l'aventure, écrivait Jacques Rabé-Mananjara, grande figure de la littérature et du combat anticolonialiste de Madagascar. Tananarive raconte un autre poète malgache, une étoile là-bas pétille. D'un poète à l'autre, j'ai en tête une chanson sur mon pays, écrivait Mahmoud Darwish, l'auteur de Palestine, mon pays, va vers mon cœur, tu y trouveras mon peuple. Après Madagascar, île monde, cap au nord, ville monde remonte l'océan Indien, la mer Rouge, direction le Moyen-Orient, jusqu'au centre de la Cisjordanie, à une quinzaine de kilomètres au nord de Jérusalem, à Ramallah, capitale administrative de l'autorité palestinienne. Ramallah, Villemonde, première escale, dimanche prochain 15 novembre à 15h. Ramallah, construite sur une colline, Ram en araméen, la colline d'Allah. Et dans quelques instants, nous retrouvons Culture d'Islam.